Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs d'amour. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans Entre sœurs en Allah. Ici, on apprend à devenir la meilleure version de nous-mêmes dans tous les aspects de notre vie. J'espère que vous allez bien, les filles. Moi, ça va, alhamdoulilah. On se retrouve pour un deuxième épisode de Ramadan. J'espère que vous êtes contentes du premier épisode. J'ai vu qu'il a été énormément écouté en très très peu de temps, ça fait que 3 jours. Que je suis très contente. Là, je vous ai concocté ce petit épisode parce que je pars pendant 4 jours au Maroc et je pense pas avoir le temps nécessaire pour pouvoir en poster un là-bas. Et je voulais vraiment faire cet épisode maintenant. Pour celles qui me suivent sur Snap, je vous ai posé une question et la question était pour les filles qui ne sont pas voilées, quelle est la chose qui vous bloque? Parce que en fait, on parle souvent du voile. Il y a énormément d'épisodes sur ça, il y a énormément de livres sur ça, énormément de prêches. Donc, je me suis dit que je n'ai pas besoin de vous rappeler pourquoi est obligatoire le voile, les versets qui parlent du voile. En fait, tout ça, je pense qu'à partir du moment où on souhaite le mettre, tout ça, on le sait. Ou du moins, on va le savoir parce qu'on va se renseigner dessus. Et là, mon but, c'est pas de vous apprendre les choses à savoir sur le voile, parce que j'ai pas la science pour ça, mais c'est, inshallah, essayer de désolidifier toutes les appréhensions et tous les blocages que vous avez autour du voile, parce que le voile, c'est quelque chose d'hyper important pour la femme, parce que c'est la seule obligation qu'elle a en dehors de l'homme, et vous le savez très bien qu'une obligation implique en islam de gagner des hasanets quand on l'a fait. C'est pour là qu'on a une religion mais tellement incroyable parce que dans aucune autre religion, le fait d'obéir à son Seigneur pour un acte qui est obligatoire te fait rapporter des bienfaits. Mais là, quand tu pries, quand tu portes ton voile, toutes les fois où tu portes ton voile, tu gagnes des hasanets. Et ça, c'est incroyable. Alors que t'es obligé de le faire en soi. Et donc, en fait, c'est pour ça que je vous ai posé la question sur Snap, parce que moi, j'avais mes appréhensions, mais j'avais pas envie de faire que mes appréhensions à moi, j'avais vraiment envie de vous parler, parce que vous savez très bien que ce podcast, il est vraiment dédié comme si je parlais à ma sœur, à ma copine, et là, c'est comme si ma copine, elle a ce genre de blocage, et moi, je vais essayer de lui enlever ses blocages, bidnil. Je veux juste, à titre informatif, dire que cet épisode n'est en rien un jugement de valeur ou d'éthique ou quoi que ce soit. Sachez que chaque fille voilée a eu sa période où elle ne l'était pas. On n'est pas né avec un voile et donc on a tous eu nos blocages, on a tous eu nos moments de doute. Et Inch'Allah, je vous le souhaite qu'Allah vous accorde et vous facilite le port du voile. Et oui, c'est pas facile, mais sachez que je ne me mets pas dans une position supérieure à vous, dans le sens où il y a un peu plus d'un an, j'étais dans la même situation que vous. Donc voilà, j'ai mis, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 points. Et en vrai, c'est les points qui sont venus le plus souvent. Vous m'avez envoyé énormément de messages et franchement, j'apprécie vraiment le fait que vous m'avez envoyé avec tellement de sincérité parce que ça se voyait que vos réponses étaient hyper sincères. Je vous remercie beaucoup pour ça. Et la majorité des réponses étaient sur les mêmes points et franchement, je vous mens pas que même dans la vie de tous les jours ou même moi, j'ai eu ces blocages-là. Donc, on va commencer de suite. Le premier blocage, c'est l'école et plus particulièrement le lycée. Bon, il y a beaucoup de filles qui me suivent qui sont au lycée. Et donc, bah, comme vous le savez, le fait d'être voilée au lycée, ça implique déjà énormément de choses. Déjà, juste le fait de devoir l'enlever devant tout le monde, devant la grille, c'est quelque chose qui est hyper humiliant, hyper rabaissant. Maintenant, on peut pas changer les lois du pays où on est, malheureusement. Et surtout aussi le fait que la abaya a été interdite depuis septembre de cette année. Et donc, être voilée au lycée, c'est dur, c'est difficile. J'ai pas vécu cette situation parce que moi, alhamdoulilah, quand je l'ai portée, j'étais à la fac. Donc, je peux le garder à la fac. Mais ma sœur, elle a commencé à porter le voile juste avant de rentrer, enfin, les vacances, avant de rentrer au lycée, avant d'être en seconde. Et au début, mes parents n'étaient pas d'accord parce que, en fait, ils se sont dit, en fait, tout ce qu'on se dit à chaque fois, mais ça sert à rien, je vais l'enlever devant la grille. Sauf que, et je vais vous citer un hadith, et après, je vais vous répondre à ça. Le commandeur des croyants, Abu Hafs, Omar ibn Khattab rapporte: J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: Les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon ses intentions. Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager. Et celui qui émigre pour obtenir un bien de ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée selon ce qu'il recherchait. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim et les auteurs des Sunan ainsi que des autres. Donc, ça nous montre quoi? Ça nous montre que si tu cherches à te voiler, ton intention, c'est de le faire pour Allah, c'est de le faire pour accomplir cette obligation, pour avoir des hasanat, pour respecter ta pudeur, pour tous les points et tous les objectifs que tu vas avoir. Vont être de bonnes intentions envers porter le voile. Si tu cherches à porter le voile, bien sûr que tu vas le faire enfin, pas tu vas le faire de la meilleure des manières, mais en tout cas, ton intention, ta niya dans l'acte va être pure. Ainsi, si tu dois l'enlever pour l'école, en fait, je parle en tant que lycéenne, tu as 16 ans. Tu vis sûrement encore avec tes parents. Et tu n'as ni subsistance, ni travail, ni argent, ni mobilité pour pouvoir quitter la France. Et aussi, il y a une question de parentalité. Tu t'es affilié avec tes parents, tu es encore mineur. Et donc, le fait est que tu n'as aucun libre arbitre, entre guillemets, sur. Là où tu dois vivre et donc les conditions que tu dois respecter dans le pays où tu vas vivre. Donc, le fait est que si ton intention est pure et de porter le voile, le fait est que tu l'enlèves à l'école ne reflète en rien ton intention et ton acte. L'intention et l'acte sont deux choses différentes. Et comme j'ai dit à certaines d'entre vous en message, il se peut que quelqu'un arrive le jour du jugement dernier avec toutes ses prières à l'heure, des prières surérogatoires, Qiyam al-Layl, tout, 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 des montagnes de hasanat par rapport à la prière, mais l'intention n'était pas bonne. La montagne, elle disparaît comme ça, sans qu'on ait vu, ne serait-ce qu'un petit doute. Vous savez, des fois, il y a des gens, on les croise tout le temps à la mosquée, on se dit, waouh, ouais, lui, mashallah, il a une grande barbe, mashallah, il récite le Coran, mashallah, il vient à toutes les prières et tout. Mais peut-être que cette personne-là, ça veut pas dire qu'elle est meilleure que vous. Hein. Peut-être que cette personne-là, le jour du jugement dernier, Allah, il va souffler toute sa montagne de hasanat parce que l'intention derrière, la niya derrière était mauvaise. Si tu as la bonne intention, le fait que ton acte soit à demi-mesure, par rapport à quelqu'un qui puisse le porter à l'école ou qui ne va tout simplement pas à l'école et qui donc peut le porter tout le temps, ça ne change rien. Ton intention est toujours là. Alors, dans les actes, dans la récompense, peut-être que tu n'auras peut-être pas la pleine récompense. Allahu alam, je ne peux pas me positionner dessus. Malgré ça, n'oubliez pas qu'Allah voit tout. Allah voit tout, sait tout, et sait que c'est hors de notre volonté de devoir le retirer pour l'école. Parce que t'es mineur, t'as pas d'argent, t'as pas de mobilité, tu peux pas quitter le pays, t'es encore affilié à tes parents, tu ne peux pas du jour au lendemain changer pour. Comme ça en fait, tu ne peux pas changer de pays comme ça du jour au lendemain. Donc tu dois t'adapter à tes parents. Tes parents, ils ont pas non plus une mobilité hyper forte parce que peut-être qu'ils ont un travail qu'ils pourront pas trouver d'une autre manière et tout. Bon, après, ça, c'est un autre sujet. Mais dans tous les cas, tu es affilié à tes parents. Donc, si tes parents ne peuvent pas faire la hijra vers un pays musulman pour que tu puisses porter le voile à l'école, ce n'est pas ta faute. Donc, oui, ça sera dur. Oui, Ça pourra être humiliant les premières fois et tout, mais garde ton intention pure, garde le cœur ferme envers Allah et le cœur blanc envers lui et l'action que tu fais pour lui. Et sache que tu seras pleinement rétribué pour ça. Et c'est pas une question de je peux pas le mettre à l'école. Oui, mais parce que t'as pas le choix. Si t'avais le choix, tu le mettrais à l'école. Donc ça change à rien. Le deuxième point, et qui va aussi avec, enfin non pas vraiment parce que celui-là c'est vraiment à part je trouve, mais c'est un peu le même délire on va dire, c'est le fait de trouver un travail dans lequel tu pourras avoir ton voile. Il y a eu énormément de filles qui m'ont envoyé des messages pour me dire j'ai peur de pas trouver de travail en le portant, déjà que c'est compliqué et tout. Alors, ça c'est une question très 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 posée de nos jours, parce que il y a énormément de sœurs qui ne se voilent pas à cause de ça. Et moi-même, dès le début, quand je me suis voilée, j'avais trouvé du travail et j'ai dû enlever mon voile. Et à l'heure actuelle, je regrette tellement de l'avoir fait parce que ça m'a été d'aucune utilité. Sachez-le. Et ça, je l'ai déjà dit à certaines sœurs, mais un travail qui vous veut sans vos principes, vos valeurs. Parce que le voile, au-delà de la religion, ça, une fois que vous portez le voile, ça rentre dans vos principes, parce que beaucoup de choses vont être fermées pour vous, mais pour le meilleur en fait. Je vais en parler après parce qu'il y a un autre point dessus, donc je vais être un peu plus précise dessus après. Mais tout ça pour dire que le voile fera partie de vos principes. En fait, ça va changer un peu votre mentalité, tu vois. Et donc, un travail, une entreprise qui ne vous accepte pas avec vos principes, en mode t'es un robot, en mode je t'accepte, mais sans ça dans ta personnalité, sans ça dans tes principes, sans tes valeurs, ça n'a aucune utilité. C'est autant ne rien avoir. Autant ne rien avoir. Alors oui, je sais. C'est facile à dire parce qu'il y en a qui travaillent pour se nourrir, pour se loger. Mais, et je vais vous expliquer ça avec deux versets. C'est important d'avoir du tawakkul, de faire confiance en Allah. Et un autre point important que je vais vous citer avec ces deux versets. Donc là, c'est Sourate Al-Baqarah, donc Sourate 2, verset 22. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas d'ego alors que vous avez tout cela. Et verset 60, et rappelez-vous quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple. C'est alors que nous dîmes, frappez le rocher avec ton bâton, et tout d'un coup, 12 sources en jaillirent, et certes chaque tribu sut où s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde. De ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. On va d'abord réagir un petit peu sur le verset 22. Le verset 22, il nous dit, c'est lui qui vous a fait la terre pour lui. En fait, tout ça, c'est une question qui se définit en un mot, le risque. Le risque, c'est la subsistance. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, c'est Allah qui vous nourrit, c'est Allah qui vous loge, c'est Allah qui vous trouve du travail, c'est Allah qui fait que vous allez passer par là. Et la dernière fois, il y a une fille sur Twitter qui a dit quelque chose d'hyper intéressant par rapport au risque et qu'on ne se rend pas compte, c'est que en fait, la subsistance d'Allah fait que en fait c'est lui qui veut que tu vas manger cette pomme-là, alors qu'elle a fait peut-être le tour du monde, elle est passée de main en main, elle a été sur des marchés et tout ça, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui allait la prendre et finalement il l'a pas pris, c'est toi qui l'as acheté et c'est toi qui l'as mangé, c'est pas quelqu'un d'autre dans ta famille, c'est ça qu'on appelle le risque. Le risque, c'est vraiment, c'est Allah qui te donne la subsistance et toi tu vas chercher subsistance ailleurs, tu ne veux pas de la subsistance d'Allah. Allah te dit, moi, c'est moi qui te donne. Tu n'as rien sans que moi je te donne. Si je n'ai pas envie de te donner, je ne te donnerai pas. Et c'est même pas question de je n'ai pas envie de te donner, c'est question que, en fait, il faut avoir confiance en Allah et se rappeler que c'est lui qui donne la subsistance. Donc ça veut dire que si toi tu cherches un travail quelque part où la guidance n'est pas là, où c'est pas le chemin d'Allah, mais t'auras jamais, soit tu n'auras jamais ce travail, soit tu n'auras jamais de travail, ou soit tu auras un travail mais qui va te rendre mais malade, tu vas faire des horaires de fou, un travail qui est mal payé, ou alors il est bien payé mais finalement tu n'arrives même pas à finir le mois. Et ça c'est pourquoi? C'est parce que c'est Allah qui donne la subsistance. Si tu cherches la subsistance ailleurs dans le mauvais chemin, tu verras, ça va être tout compliqué. Tu auras beau gagner 3000 euros à la fin du mois, tu vas être serré alors que tu sais même pas ce que tu as fait de cet argent. Et ça, subhanallah, c'est parce que c'est lui qui te donne. Si tu cherches à prendre à manger ailleurs, tu verras les conséquences de ça. Et pour le verset 60, et rappelez-vous quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, ça c'est la preuve que quand on fait confiance en Allah et qu'on cherche la subsistance vers Allah et pas vers quelqu'un d'autre ou vers la dunya, on a quelque chose. Quelqu'un, ok, on se pose là. T'es dehors, tu tapes le sol avec un bâton. Jamais de la vie, tu vas te dire qu'il y a une source d'eau qui va jaillir. 12 sources. Et là, Allah, il l'a fait parce que Allah peut faire tout ce qu'il veut. Allah peut faire tout ce qu'il veut. Et ça montre, encore une fois, la subsistance. La subsistance d'Allah, il ne faut jamais douter de ça. Donc vraiment, si vous voulez trouver du travail, faites des doigts. Faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de doigts. Moi, j'ai fait énormément de doigts. Après, j'ai réussi à trouver du travail avec mon voile. Alhamdoulilah, j'étais bien. J'ai arrêté ces travaux. J'en ai fait deux où j'ai pu garder mon voile après. Je les ai arrêtés, mais c'est pas pour autant que ça m'a pas apporté du réel de pouvoir garder mon voile au travail. C'est incroyable. Faites des doigts. Faites confiance en Allah. Faites confiance en lui. On n'a pas assez confiance en Allah de nos jours. On fait confiance à des gens qui nous trahissent. On fait confiance en l'être humain. On fait confiance aux technologies qui nous ruinent le cerveau, l'argent, notre argent, notre temps. Alors que tout ça, c'est des choses qu'on va être jugé dessus le jour du jugement dernier. Et on ne fait même pas un peu confiance en Allah. Vous voyez, par exemple, des fois, on va être dans une situation où on va être hyper pessimiste. Par exemple, tu passes un examen, tu as l'impression que tu vas grave rater et tout. Avant même, t'es même pas assise. Tu n'es même pas assise dans la salle. T'as même pas encore sorti un stylo. Que tu es déjà pessimiste. Ah, oh, je vais rater. Oh, ça va être la merde et tout. Mais fais confiance en Allah, fais des doigts. C'est ça qui nous freine en fait à être de meilleures personnes. C'est ça qui nous freine à vouloir le meilleur dans notre vie. C'est parce qu'on n'a pas confiance en Allah et on a confiance en des choses futiles. Ayons confiance en Allah, ayons confiance en sa subsistance et au fait qu'il nous donnera notre rizq parce que c'est notre dû. Donc faisons le bien pour qu'Allah nous donne une subsistance bonne. Et pas n'allons pas chercher la subsistance dans des milieux où on va gagner que de l'argent, où on va être dans le mal, on peut même pas garder notre voile, aucun intérêt. Le troisième point pour lequel on a des blocages sur le voile, c'est la dounia. Et ça, en vrai, j'aurais dû le mettre en premier point, tellement c'est le high niveau. C'est vraiment le high niveau. Genre, en fait, la dunya, de nos jours, c'est tellement devenu quelque chose de... C'est tellement facile de faire du halal. Je vous l'ai déjà dit ça dans des épisodes. C'est tellement facile de faire du halal, d'avoir des bonnes récompenses. Parce que regardez, par exemple, maintenant, si tu veux donner à des associations et tout, tu peux donner depuis chez toi, sur Internet. Si tu veux faire des prières surérogatoires, si tu veux aller faire Qiyam al-Layl à la mosquée, si tu veux écouter des prêches, tu peux juste sur YouTube, t'as même pas besoin de te déplacer. Tout est facilité. Les livres, même les livres, tu peux avoir accès sur Internet et tout. Bref, tout nous est accès. Alors qu'à l'époque, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avoir une information, surtout après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les informations, quand il y a eu l'expansion d'islam, était hyper compliqué à avoir. Il fallait attendre des fois des mois que quelqu'un vienne à dos de chameau faire le tour de quatre pays pour avoir ne serait-ce qu'une lettre où il y a un hadith. Un hadith. C'est aberrant. À l'époque, les gens pouvaient vraiment se démener pendant des mois pour avoir une information sur la religion. Nous, on a tout dans nos mains. On a tout avec nous. Sur nos téléphones, on a tellement de richesses pour apprendre. Et malheureusement, on est comme lassé de ces informations. On n'y prête pas vraiment attention. Et ça nous procure rien du tout. On va lire un hadith sur TikTok ou dans une story Snap, ça nous provoque rien du tout. Et même une citation, limite, des fois, ça provoque plus de trucs. Et tout le monde la reposte. Mais bref, pour revenir à la dounia, donc comme j'ai dit, c'est très facile de faire du khil et des hasanat de nos jours. Mais c'est encore plus facile de faire du haram. C'est encore plus facile de faire du haram. De nos jours, il y a juste à voir, les hommes préfèrent. Enfin, quand je dis les hommes, vous m'avez compris, les sœurs, mais. On a l'impression que la majorité des hommes préfèrent les mini-jupes, les crop tops, être hyper maquillés, des faux cils, des faux ongles. Mais c'est pas ça la vie en fait. C'est pas ça la vraie vie. Tout ça tend à disparaître. Tout ça, c'est qu'éphémère. Tout ce qui va être du superficiel, ou même les choses qui vont être néfastes, tu vois, genre. Les sorties à la chicha, des trucs comme as. Tout ça, c'est du éphémère. Et vous savez, moi, je me dis un truc, en tant que femme, avant tout, pas en tant que musulmane, pas en tant que. Bref, en tant que femme, je me dis, je sais que la majorité des filles qui sont dans ce genre de cas, qui attirent ce genre d'hommes, avec des extensions de cils, extensions de cheveux, faux cils, gros talons, des bikinis, tout ça et tout, sorties à Dubaï, des trucs comme ça et tout. Vous savez, je sais que la majorité de ces filles-là sont vraiment intéressantes. Elles ont vraiment des choses à donner. Et pas que leur cœur, en fait. Elles ont du savoir, elles ont des choses à donner, tu vois. Et malheureusement, elles donnent une mauvaise image parce que. Elle donne une image, je veux vraiment pas être méchante, hein, parce que j'ai vraiment été dans ce cas, pas pour tous les points, mais dans le sens où, oui, j'ai eu une. Avant d'être voilée, j'étais quelqu'un, maintenant que je trouve quelqu'un de superficiel, parce que j'accordais beaucoup d'importance à mon apparence. Et ce que je veux dire par là, c'est que des filles comme je l'ai été, ou comme certaines d'entre vous peuvent l'être, qui vont m'écouter, ont beaucoup de choses à donner, ont beaucoup de choses à donner. Elles sont intéressantes, elles ont des choses à dire, elles ont des choses, elles ont des projets dans leur vie et tout. Alhamdoulilah, c'est des filles qui sont indépendantes, mais malheureusement, elles attirent que de la, sans être vulgaire, de la merde, tout simplement parce que elles reflètent pas du bon en fait. Et le problème, c'est que tu ne peux pas trouver du khir quand tu ne reflètes pas du khir, tu vois. Typiquement, quelqu'un, vous voyez, tu vas à la mosquée et tout. Et il y a cette personne-là à la mosquée. Une femme, peu importe, une maman, une jeune et tout. Elle est simple, mais elle dégage une présence, mais légère, mais en même temps, tu sens qu'elle est là. Et elle dégage un réel en fait. Elle dégage une bonne image et tout. Ben, en fait, tout le monde a envie d'aller lui parler. Et tu sais, cette fille-là, tout le monde lui parle à la mosquée, elle vient pour aider. On va la voir pour certaines choses et tout. Tout le monde la connaît à la mosquée et tout. Et en fait, à l'inverse, les filles qui vont être dans tout ce qui va être le superficiel et qui vont être coincés dans cette dounia, on va les connaître que pour ça. Et malheureusement, que ce soit hommes et femmes, les interactions qu'elles vont avoir avec ces personnes-là vont des fois être très limitées parce qu'on s'attend à une bimbo qui comprend rien ou qui est bête ou quoi. Alors que je sais que énormément de filles qui sont dans ce cas-là, sont très intelligentes et ont beaucoup de choses à donner, mais malheureusement, c'est pas ce qu'elles montrent. Et en fait, moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que tout ça tend à subsister dans 10, 15 ans? Est-ce que vous serez rassasié de tout ça dans plusieurs années? La réponse, c'est non, hein, parce que en fait, on voudra toujours plus. En fait, c'est même pas du vrai bonheur, parce que j'ai été dans cette situation et c'est vraiment pas du bonheur. Parce que, ok, tu te sens belle et tout avant de sortir et tout. Ouais, il n'y a pas de souci, mais en fait, t'es même pas heureuse qu'on te regarde, t'es même pas heureuse qu'on vient de demander ton snap. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. C'est même pas quelque chose où tu te sens fière de toi, et même si t'as l'impression d'être heureuse, si tu te poses toute seule dans le silence et que tu réfléchis à ta vie, t'es pas heureuse. Sachez, mes sœurs, que tout ce qu'il y a dans cette dounia, ça tend à disparaître, que c'est éphémère, que même nous-mêmes, on est éphémère. Nous-mêmes, on sera plus là dans 1 minute, 10 minutes, 15 ans, 20 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, tout ce qu'il y a là, c'est éphémère. Mais tout ce qui va rester, c'est nos bonnes actions. Et n'oubliez jamais que notre image, elle est hyper importante en tant que musulman. Parce que, en fait, avoir une mauvaise image, ça ne reflète que du mauvais. Qu'on se le dise, quand tu as une mauvaise image, c'est très rare que cette image-là soit bonne vis-à-vis d'Allah. Parce que quand on a une mauvaise image, c'est qu'on est quelqu'un soit qui est dans les problèmes, soit qui est dans le superficiel, soit qui est trop attaché à la dounia. Tout ça, ce n'est pas du bon dans la religion. Maintenant, on peut avoir une bonne image, et il y a deux types de bonnes images. Soit la bonne image qui est bonne, qui est sincère. C'est la vérité, la personne-là, moi je lui fais confiance. C'est une fille de bonne famille, c'est une fille qui est respectueuse. Et on peut avoir la bonne image qui tend à l'ostentation dans le sens où on n'est pas la même devant les gens et seul. Ça, c'est pas du tout, vous l'aurez compris, le but pour nous. Mais le but, c'est de garder une bonne image. Déjà, pourquoi c'est important de garder une bonne image? Garder une bonne image vous donne des hasanettes. Les gens sont contents de vous connaître. Les gens sont contents de parler avec vous. Les gens sont contents de vous croiser dans la rue et tout. Vous savez, quand vous avez une bonne image et que vous avez des bonnes relations avec les gens, vous les croisez, ils sont là en mode « Ah, ça fait longtemps, tout ça ». Et ils te parlent et t'as égayé leur journée. Pas parce que t'es quelqu'un ou parce que t'es une star ou je sais pas quoi, mais dans le sens où t'es quelqu'un de bien avec les gens et t'as donné du rire à un peu tout le monde que t'as côtoyé dans ta vie. Ce qui veut dire que ces gens-là vont être contents. Et tout ça, c'est des hasanets. Donc déjà, il y a ça. De deux, être une bonne personne. La suite logique des choses, c'est que les gens se rappellent de toi après ta mort. Bon, peut-être pas des années après. Je vais en reparler après dans un autre point. Mais toujours est-il que le jour de ta mort, les gens parleront de toi en bien. Et en fait, c'est très important que les gens parlent de toi en bien, parce que les gens qui parlent de toi en bien, ça fait que tu vas avoir une belle salat janaza avec beaucoup de monde, que tu vas avoir un enterrement, inshallah, et une belle mort. Et les gens feront des doigts pour toi. Et peut-être même que tu as aidé des gens dans cette dounia qui vont faire des doigts toute leur vie pour toi. C'est pas un truc de ouf, ça donne pas envie en fait. Certaines d'entre vous vont se dire, mais tout ça, c'est quoi le rapport avec le voile? En fait, le voile, ça t'apaise dans tellement d'aspects qu'en fait, tu deviens. En fait, ça tend à différer tes anciens démons, on va dire. Et donc, du coup. Ça te tend plus à devenir une meilleure personne que si tu ne le portes pas. Et ça, dans tous les cas, c'est tout à fait logique. Mais tout ça pour vous dire que la dounia, c'est quelque chose qui a tenté tout le monde. Qui a tenté tout le monde. On n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Mais le plus important, c'est de reconnaître les choses mauvaises et les choses qui font que nous sommes attirés par cette dounia. On est tous attirés par cette dounia, même dans des choses qu'on ne va pas forcément faire dans notre quotidien. Mais en fait, on va tous être attirés dans le sens où, oh, j'aimerais trop aller me faire des ongles. Oh, j'aime trop sa pose de cils et tout. Mais le point le plus important, c'est de ne pas tomber dedans. Et que si on tombe dedans, savoir se repentir et se relever. Le plus important quand on tombe, c'est de savoir se relever. C'est pas de voir la chute. En fait, le problème, c'est que il faut voir la dounia comme un escalier. Si tu tombes d'une marche, tu vas peut-être te faire mal, mais tu peux remonter en haut parce que t'es tombé que d'une marche. Mais si tu continues dans ça et que tu ne regardes jamais ta chute, tu vas tomber tout en bas de l'escalier et ça va être compliqué de remonter. Bien sûr que tu peux remonter parce que peut-être il y a un ascenseur, on ne sait pas. Mais je ne sais pas si tu as compris ma métaphore, mais tout ça pour dire que les filles, repentez-vous. Cette dounia ne vaut rien. Cette dounia ne vaut rien. Sachez que juste, je crois que c'est dans un hadith qui dit que la salat al-fajr vaut mieux que tout ce bas monde. C'est juste une prière. Ça vaut mieux que tout ça. Donc, imaginez-vous le fait de porter le voile, le fait de faire ses prières à l'heure, le fait d'être bienveillant avec les gens, le fait de parler bien. Imaginez-vous tout ça sur la balance, mais c'est incroyable. La balance qu'on va avoir, incroyable. Incroyable. Donc vraiment, ne vous laissez pas tenter par cette dounia, parce que en fait, tout ça, c'est éphémère. Et la question, c'est pour qui tu le fais? Et c'est pas pour toi. Tu peux pas dire que c'est entièrement pour toi, parce que il y aura toujours un point où ça sera soit pour te montrer, soit pour être dans le groupe, pour être dans le mouvement de foule, pour être à la mode, pour pas qu'on te juge ou quoi, alors qu'en vrai on s'en fout. Et pour rebondir sur ça, on va passer au quatrième point, qui est le regard des autres. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sœurs qui m'ont dit le regard des autres. Je vais pas m'éterniser sur ce sujet-là. Mais les filles, je veux juste vous dire un truc. C'est pas pour faire peur, vraiment. Mais c'est pour vous donner un électrochoc. On va tous mourir. On va tous mourir. Genre, peu importe. Ton père, il va mourir. Ta mère, elle va mourir. Toi, tu vas mourir. Tout le monde va mourir. Ta voisine, elle va mourir. Tout le monde. Ce n'est qu'une question de temps. Le jour où tu meurs, à part si tu as fait des choses notables pour la société ou pour la communauté, personne ne se rappellera de toi. Si tu meurs maintenant, dans 20 ans, ta mère va pas passer sa vie à se rappeler de toi. Et c'est triste et c'est méchant à dire parce que c'est ta mère ou c'est ton père ou peu importe. Mais tout ça pour dire que en fait, les gens quand ils meurent, on ne se rappelle pas forcément d'eux tous les jours. On va pas penser à eux tous les jours. On va pas forcément penser à eux dans nos doigts et tout, on va le faire 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, et après on se rappellera plus de la personne. Et c'est triste, mais ça, c'est un rappel pour nous dire que le regard des autres ne change rien. Le jour où tu es dans ta tombe, le jour du jugement dernier où Allah va te demander pourquoi tu n'as pas porté le voile, personne, je dis bien personne, ne va se mettre devant toi pour dire non, Allah, s'il te plaît, pardonne-la, c'est à cause de moi, j'allais la juger si elle le porte. Personne ne va dire ça, parce que ça sera chacun sa peau. Vraiment, ça sera chacun sa peau. Les gens vont te juger. Et alors, eux, ça va leur faire des mauvaises actions. Et toi, tu auras des bonnes actions. Alors que si tu restes dans la situation où tu te dis, les gens vont me juger, les gens vont me regarder, tu restes dans les mauvaises actions parce que tu ne te voiles pas. Et de l'autre côté, bah, il n'y a rien qui se passe. Donc en fait, tu es en perte. C'est à perte. Parce que tu te condamnes à ne pas faire une obligation et à ne pas prendre de bonnes actions vis-à-vis du regard de personnes que tu vas peut-être rencontrer une fois dans ta vie ou même que tu vas croiser tout le temps. Et alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Même ta meilleure amie, elle meurt. Dans 5 ans, tu te rappelleras même pas d'elle. tu te rappelleras même pas d'elle. Et juste à titre d'information, il y a des gens qui m'ont jugé quand j'étais au lycée, pas par rapport au voile parce que je t'ai pas voilée, mais par rapport à pas mal de choses. Moi, j'ai été quelqu'un qui a été beaucoup jugé parce que, comme je vous l'ai dit dans un de mes podcasts, je me suis toujours sentie pas différente des autres, mais à l'écart. Et j'ai été beaucoup jugée pour qui j'étais. J'ai eu beaucoup de phrases qui sont restées dans ma mémoire et tout. Mais toujours est-il que la majorité des personnes qui m'ont jugée, je me rappelle même pas de leur prénom, je me rappelle même pas à quoi ils ressemblent, et je sais même pas c'est qui en fait. Même si je les croise dans la rue, je me rappellerai même pas d'eux. Je vais juste me dire, ah, mais sa tête, elle me dit un peu quelque chose et tout. Mais genre, je m'en fous. Je m'en fous. Donc, dites-vous que les gens vont peut-être vous juger, mais au final, vous prenez des bonnes actions. Et en plus de ça, tout ça, c'est éphémère en fait. C'est comme la dounia, c'est éphémère. Les gens qui vont vous juger font partie de cette dounia. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? On s'en fout. Quelqu'un veut te juger, quelqu'un veut te dire oui, retourne dans ton pays et tout. Et alors, ça va changer quoi? Ça va rien changer. Et tu peux même en pleurer ou quoi chez toi. Dans tous les cas, la sentence est la même. Ça ne va rien changer. Donc, vraiment, ne prenez pas le regard des autres comme un frein. En fait, on s'en fout. On s'en fout, genre. Et si on se base sur le regard des autres, on ne fait rien. On ne fait rien. Mais vraiment, rappelez-vous, on va tous mourir. Donc, personne ne va prendre votre défense le jour du jugement dernier pour les actes que vous n'aurez pas faits ou pour les mauvaises actions que vous aurez faites. Pas même votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, votre grand-mère, votre grand-père, peu importe. Même votre meilleur ami, votre mari, peu importe. Personne ne prendra votre défense le jour du jugement dernier. Ça sera chacun sa peau. Réévaluez ça à la hausse et voyez à quel point c'est à perte de se limiter pour les regards des autres en fait. C'est pas que ça n'a pas de sens, je peux comprendre parce que c'est difficile d'être voilé de nos jours en France et tout. Moi, alhamdoulilah, j'ai jamais eu de problème à cause de mon voile ou quoi, avec des gens dans la rue qui m'ont parlé ou quoi. Mais je peux comprendre que ça puisse être difficile. Mais d'abord, faisons-le. Et après, faisons le point. Ok, cette personne-là m'a dit ça dehors. Ok, cette personne-là m'a jugé et tout. Qu'est-ce que ça m'apporte sur ma balance à moi de bonnes actions? Est-ce que ça m'apporte quelque chose d'y réagir, d'y prendre un temps dans mon temps? Je prends du temps dans mon temps pour m'occuper de ce que les autres pensent de moi. Donc eux, ils perdent du temps à penser à moi, et moi, je perds du temps à penser que eux pensent à moi. Non mais ça va pas, ça va pas. Le cinquième point, c'est la famille. Alors ça, franchement, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit ça. Et malheureusement, de nos jours, le pire du pire, c'est vraiment que de nos jours, il y a énormément de familles musulmanes qui refusent que leurs filles se voilent. Et ça, oh mais ça me choque, mais tellement, parce que je me dis, en fait, t'as rien compris à ta religion. T'as rien compris à ta religion. Tu fais tes prières tous les jours, tu lis peut-être le Coran et tout, tu fais du dhikr, tu fais des doigts à Allah, et tu interdis le bien à ta fille, mais ça me choque, mais d'une manière. Les filles qui sont dans cette situation-là, c'est vraiment une situation qui est compliquée, que ce soit pour les reconverties par rapport à leur famille qui est non musulmane ou les familles musulmanes qui n'acceptent pas. Déjà, la première des choses que je vais vous dire, parce que je ne peux pas me positionner dessus dans le sens où moi, mes parents l'ont accepté, alhamdoulilah, et vraiment qu'Allah fasse que vos parents vous acceptent tel quel et qu'Allah facilite cette situation-là. Mais vraiment, la règle d'or que je peux vous donner, le conseil d'or que je peux vous donner dessus, c'est vraiment de faire des doigts. Demandez à Allah d'alléger cette situation, de la faciliter. Parce que oui, c'est pas une situation facile, mais Allah voit tout. Malgré cela, malgré le fait que Désobéir à ses parents, c'est un péché capital, je pense que beaucoup le savent. Et parmi les actions les plus bonnes à faire dans l'islam, c'est d'obéir à ses parents. Malgré ça, il y a un hadith d'Ibn Omar qui nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'on doit écouter et obéir aussi longtemps que les ordres reçus n'impliqueront une désobéissance à Allah. S'ils l'impliquent, l'on ne doit plus écouter ni obéir. Rapporté par Al-Bukhari, chapitre sur Al-Jihad, Al-Siwar, 27-35. Donc, ce hadith, il nous dit quoi? Il nous dit que l'obéissance envers les parents ou envers n'importe qui ne doit s'appliquer que lorsqu'elle guide vers le chemin d'Allah. Lorsque elle n'est pas vers le chemin d'Allah, on ne doit pas obéir. Alors, il y a la théorie et il y a la pratique, vous me direz, dans le sens où, oui, tes parents n'ont pas à t'interdire de porter le voile et tu peux les désobéir sur ce point-là, mais je peux comprendre que pour certaines, c'est compliqué parce qu'il peut y avoir des situations, on va dire, à risque de les désobéir. Maintenant, moi, je pense que mon conseil, ça serait pas forcément de les désobéir directement, parce que ça vous condamnerait à ne plus jamais pouvoir le porter dans leur foyer. Donc, mon conseil, ça serait: devenez la meilleure personne que vous puissiez être dans la religion. Faites des doigts, demandez à Allah, faites les causes en devenant cette personne bonne, sage, juste avec tout le monde, et vous verrez qu'Allah va changer la situation. Combien de sœurs avaient des parents qui leur avaient dit: si tu portes le voile, tu n'es plus ma fille, tout ça. Ils ont fait des doigts, ils ont changé leur manière d'être et tout, et leurs parents ont accepté. Moi, je connais une fille qui, d'ailleurs, je pense qu'elle va écouter ce podcast et je pense qu'elle va se reconnaître, avec qui j'avais parlé parce qu'elle était reconvertie. Et c'est une Portugaise, donc dans sa famille, ça allait être très très mal vu qu'elle soit reconvertie musulmane. Et donc, quand elle l'avait annoncé à ses parents n'étaient pas du tout d'accord, quoi. Et maintenant, elle porte le voile, tu vois. Donc, ça fait un moment qu'elle le porte et tout, alhamdoulilah. Mais tout ça pour vous dire que chaque situation peut être allégée quand on a confiance en Allah et qu'on lui demande. Allah, il y a juste à lui demander, en fait. Faites des prières surrogatoires, demandez-lui, faites des doigts. Et Inch'Allah, votre situation va s'alléger. Parce que ne doutez jamais qu'Allah puisse vous mettre dans le bien. Allah, il ne veut pas que vous ayez des situations lourdes à porter. C'est des épreuves. Et les épreuves vous rendent plus fort. Et les épreuves vous rapprochent de lui. Regardez, c'est simple. Vous êtes dans une épreuve. Pour sortir de cette épreuve, demandez à Allah. Et vous allez être plus proche d'Allah en sortant de cette épreuve. Et Inch'Allah, Allah va vous ouvrir les portes que vous souhaitez. Le sixième point, c'est la peur de le retirer ou de mal le mettre. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus de nos jours à cause des réseaux sociaux. D'ailleurs, il faudrait que je fasse mon épisode sur les réseaux sociaux parce que j'ai un épisode dessus qui est préparé depuis grave longtemps. Mais il faut que je le fasse parce que c'est intéressant, surtout en ce mois de Ramadan, de parler de ça parce que notre temps est hyper compté et on devra rendre des comptes sur notre temps. Et c'est important de pouvoir, comment dire, de pouvoir optimiser son temps dans le meilleur. Et les réseaux sociaux, malheureusement, ne nous donnent pas souvent le meilleur. Mais c'est quelque chose qu'on peut voir souvent sur les réseaux depuis quelques années, le fait que le voile puisse être retiré. En fait, le problème avec ça, c'est qu'on a banalisé le fait de retirer le voile. En fait, le voile, c'est une obligation. C'est comme si tous les 6 mois, vous arrêtiez la prière. T'arrêtes la prière. Bah, pour des raisons personnelles, bien sûr, j'arrête la prière. Donc, t'arrêtes complètement la prière. Mais est-ce qu'on a perdu la tête pour banaliser ce genre d'acte? Est-ce qu'on a arrêté d'avoir peur de la mort? Est-ce qu'on a arrêté d'avoir peur de notre jugement? Est-ce qu'on a arrêté d'avoir peur de ne pas avoir assez de bonnes actions, d'entrer en enfer? Mais on est devenu fou, en fait, pour banaliser ce genre de choses. Vraiment? Donc maintenant, en fait, le problème des sœurs qui ont partagé de plus en plus le fait d'enlever leur voile, ça a créé des peurs chez d'autres sœurs qui ne sont pas forcément actrices des réseaux sociaux, mais plus spectatrices, et qui ont commencé à avoir une peur de si je le porte, j'ai peur de le retirer. Mais est-ce que quand tu as commencé à faire la prière, tu as eu peur d'arrêter de la faire, avant de la faire? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que je fais la prière ou pas parce que j'ai peur qu'un jour je vais arrêter de la faire? Non, t'as juste commencé la prière. Et peu importe à quel âge tu l'as commencé, à quel âge tu l'as repris ou quoi, tu ne t'es jamais posé la question. Et j'aimerais bien savoir qui s'est posé la question. Parce que oui, tu peux avoir des doutes en mode j'ai peur de la retarder ou de la faire mal et tout. Mais tu vas apprendre. Tu vas apprendre et tu vas travailler dessus. Mais en fait, le voile, on nous a tellement parlé de ça depuis quelques temps parce qu'il y a de plus en plus de sœurs, et ça, alhamdoulilah, c'est tant mieux, qui se sont voilées. Mais toujours est-il que cette peur est infondée parce que tu ne peux pas avoir peur de quelque chose qui ne peut pas se produire tant que tu n'as pas encore truc. Et tu as peur de le retirer. Mais qui te dit que le jour où tu vas le mettre, tu ne vas pas mourir ce jour-là? Qui te dit que tu ne vas pas mourir le jour même que tu vas porter le voile? Tu n'auras même pas le temps de te poser la question, est-ce que je vais le retirer? Tu n'auras même pas le temps de te poser la question que tu seras déjà morte. Donc, n'aie pas peur de choses dont tu ne connais pas l'arrivée ou non. Il vaut mieux avoir une semaine dans ta vie où tu vas être voilée que de n'avoir jamais porté le voile. Et d'avoir le jour de ton enterrement porté pour la première fois le voile. C'est dur à dire, c'est dur à prendre en considération, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, ok, t'as peur de le retirer, mais déjà mets-le. Déjà mets-le. Et après, tu vois après. Pose-toi les bonnes questions. Fixe-toi tes objectifs. Apprends les choses fondamentales sur le voile. Écoute des prêches sur le voile. Renseigne-toi, mets-le. Et après, tu verras. Fais des doigts. Déjà, la majorité des filles qui ont peur de le retirer, est-ce que vous faites des doigts pour qu'Allah vous facilite de le pouvoir le garder? Déjà, mettez-le et faites des doigts. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à l'avenir. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est le présent. Donc, mettez-le maintenant. Mettez-le. Et voyez l'avenir. En fait, de nos jours, on est trop focalisé sur le futur. Parce que on nous a inculqué que le futur, c'est le présent. On va à l'école pour faire des études. On fait des études pour trouver un travail. On trouve un travail pour acheter un logement. On achète un logement et on se marie. On se marie pour avoir des enfants. En fait, on ne fait aucun acte pour le présent, pour ce qui va être maintenant. Et on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. On ne sera peut-être même pas là pour voir le futur. Donc, pourquoi se focaliser sur ce qui va se passer après? Dans combien de temps? 5 ans? 10 ans? C'est même pas de l'investissement rentable de se focaliser sur ça. Vraiment, ne nous focalisons pas sur des choses futiles. Je vais rapidement passer au dernier point parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je dois aller me préparer pour aller à l'aéroport. Mais le dernier point, et c'est moi qui l'ai rajouté parce que on ne m'en a pas parlé, mais moi, c'est un point qui m'a touchée et peut-être que ça va toucher d'autres filles parce que, comme je vous ai dit, j'étais un peu superficielle avant. Et ça, c'est un de mes points où j'étais superficielle, c'est-à-dire le mariage. Avant de me voiler, je pensais que personne pourrait vouloir de moi si j'étais voilée parce que j'allais être moins belle. Je pensais que mon mariage allait être nul parce que je serais moins belle parce que je devrais porter le voile. Ouais, je pensais que j'allais être moche le jour de mon mariage. En fait, ça me saoulait trop. Je me disais, je vais devoir porter un voile le jour de mon mariage. Genre, c'est De la merde. C'est de la merde comme argument. Et même les filles qui ont ce genre d'argument, parce que je sais que je suis pas la seule, et j'espère ne pas être la seule, mais c'est trop nul comme argument. Et déjà, c'est trop nul parce que sachez qu'un homme qui vous prend, en sachant que vous n'êtes pas voilé, et qui vous prend comme ça, et ça lui convient, ce n'est pas un homme qui va être bon envers vous. Parce que ça ne le dérange pas que vous vous habillez de manière court ou crop top ou en... Bref, que vous vous habillez de manière pas légiférée, on va dire. Si ça ne le dérange pas, sachez que ça ne va pas le déranger, je sais pas, d'aller vous tromper ou de négliger les prières ou peu importe en fait. En fait, si ce genre de choses, ça ne le dérange pas, posez-vous des questions sur sa relation avec Allah. Parce que aucun homme qui a une bonne relation avec Allah ne voudra d'une femme qui n'est pas voilée. Et c'est peut-être dur à dire, et peut-être que ça va vous faire mal au nefs, mais pas toutes les femmes pieuses, pas toutes les femmes voilées sont pieuses, mais toutes les femmes pieuses sont voilées. Et ça fait mal à dire. Ça fait mal au nefs, je peux comprendre. Moi aussi, j'ai entendu des trucs comme ça avant de me voiler et ça faisait mal parce que c'est l'ego et que on n'est pas dans cette catégorie-là. Du coup, on se dit, mais merde, en fait, moi, je suis où dans ça? Mais c'est la vérité, en fait. C'est la vérité. Si vous ne pouvez pas tenir cette obligation pour Allah, posez-vous la question si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas. Et essayez de vous dire que si vous ne voulez pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème avec votre relation avec Allah. Il faut revoir à la hausse votre lien avec Allah. Est-ce que vous avez un lien avec Allah? Est-ce que vous connaissez Allah? Est-ce que vous aimez Allah? Est-ce que vous avez une connexion avec lui? Parce que si c'est pas le cas, il faut se poser des questions. Et dans tous les cas, un lien, ça se travaille. Par exemple, un couple, une amitié, ça se travaille. C'est pas on fait un acte de bien envers la personne et ça y est, l'amitié, elle est close, elle est bien, elle est stable. Non, ça se travaille sur la confiance, sur la confidence, sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Et la religion, c'est la même chose. Ça se travaille sur la foi, sur savoir qui est Allah et sur les obligations à tenir envers lui, sa confiance, sa subsistance, tous ces points-là, c'est des points hyper importants. Je vais m'arrêter là parce que de un, j'ai pas beaucoup de temps et de deux, j'ai déjà parlé énormément. Le podcast, il va faire 1 heure, mais bon, je pense que il va vous plaire parce que j'ai parlé de beaucoup, beaucoup de points. J'espère que bah, l'épisode vous plaira. Moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve bah, quand je rentrerai du Maroc, j'essaierai d'en refaire un. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain épisode. Salam alaikum!